rester à Vichy dans les conditions où il reste après l'occupation allemande, c'est se vouer à l'asservissement. Du reste, le prince, comment il s'appelle, François-Xavier de Bourbon-Parme, qui avait vu le père Pétain en décembre 42, lui entend dire exactement ce qui suit, « Je suis prisonnier, comme ceux d'Allemagne. Je ne peux pas écrire une lettre sans qu'elle soit censurée. Je ne peux pas donner un coup de téléphone sans qu'il soit écouté. » Fin de 42, les choses ne se présentent pas tellement bien pour l'Allemagne. Surtout, il va y avoir l'affaire de Stalingrad. Déjà, ils avaient piétiné pas mal. Hein. Ils avaient espéré emporter Leningrad, puis emporter Moscou, ni l'un ni l'autre. Et pour Stalingrad, 90 000, enfin, ils sont 90 000 prisonniers, mais il y en avait 110 000 qui allaient encercler avec le maréchal von Paulus. Et le 31 janvier, si je ne me trompe pas, oui, 30 ou 31 janvier 1943, von Paulus va se rendre. Coup très dur pour Hitler, et Pétain le reçoit lui-même en pleine poitrine, puisque sa grande préoccupation, c'est la Russie. Et il va le dire très clairement le 5 mai 43 à Monseigneur Calvet, qui est le recteur de l'Institut catholique de Paris. Et il lui dit ceci, hein, le 5 mai 43. Le seul, vous entendez bien, hein, le seul danger, le vrai danger, c'est l'Union soviétique. Et au même, si jamais l'Allemagne était vaincue, j'espère que les alliés ne feront pas la folie de la dépecer, car nous aurons toujours besoin d'une Allemagne forte. Quand j'avais parlé la dernière fois du double jeu qui semble s'amorcer, j'avais oublié deux documents qui me reviennent maintenant et que je vais vous soumettre. Il y en avait un qui est du 8 novembre 1942, c'est-à-dire le jour même du débarquement. Ce jour-là, Pétain a préparé une protestation extrêmement vive qu'il doit faire remettre au chargé d'affaires. Lié est parti, hein, l'amiral Lié est parti. Il est remplacé par un chargé d'affaires qui s'appelait Tuck. Alors le 8 au soir, Tuck enverra une dépêche à son gouvernement à Washington, racontant qu'il a remis au maréchal Pétain la lettre de protestation du maréchal contre l'agression commise sur le sol français, car à ce moment-là, l'Algérie, c'était la France. Mais la fin de son télégramme est bien intéressante. « Comme je me levais pour prendre congé, le maréchal me saisit les deux mains, me regarda droit dans les yeux et sourit. Puis il me raccompagna jusqu'à l'antichambre et retourna vers son bureau d'un pas allègre en fredonnant un petit air. » Vous vous rappelez ce que je vous ai dit du pétainisme de l'Afrique du Nord? Quand Pétain va apprendre que Darlan s'est retourné contre lui, tout en disant qu'il était avec lui, il n'est pas tellement inquiet, étant donné que Darlan lui-même va dire « c'est au nom du maréchal ». Le maréchal dira un peu « démenti, c'est épouvantable, c'est faux ». Mais il sait, le maréchal, qu'il pourrait compter sur une grande partie de l'esprit des colons de l'Afrique du Nord. Il sait qu'en Afrique du Nord, on n'aime pas De Gaulle. Tout ça est intéressant. D'autre part, le message de Noël. Alors ça, c'est le jour de Noël 42. Voici la phrase centrale. Français. En juin 40, je vous avais promis de rester parmi vous. J'ai tenu ma promesse. À l'heure où il semble que la terre manque sous vos pas, levez les yeux vers le ciel. Vous y trouverez alors assez d'étoiles pour placer comme il convient votre espérance. Eh bien, des interprètes officieux, ceci est rapporté par Tourneau, raconteront dans les antichambres de Vichy qu'il faut comprendre étoile au sens des étoiles du drapeau américain. Je ne sais pas ce que vaut cette interprétation, mais elle est possible. Elle n'est pas impossible, elle n'est pas inadmissible. Le maréchal Pétain, en 43, au printemps de 43, va commencer une campagne discrète auprès d'un certain nombre de gens pour ce qu'il appelle le renversement des alliances. Il lui semble que les Américains sont des gens intelligents, qui ne peuvent pas tout de même soutenir l'épouvantable bolchevisme, et que par conséquent, étant donné les progrès que sont en train d'accomplir les troupes russes, il serait nécessaire de renverser les alliances, c'est-à-dire de s'unir entre Allemands et Américains pour faire barrage contre la Russie. La première fois qu'il en parlera, c'est un prêtre, ça lui paraissait tout à fait indiqué, c'est Monseigneur Chapoulier. Chapoulier, ça vous dit rien, c'était un délégué permanent à Vichy, du, comment est-ce qu'on appelle ça, du concile, de la réunion, enfin du conseil des cardinaux et archevêques de France. Cette haute autorité ecclésiastique estimait, avec raison, qu'il devait avoir un représentant permanent auprès de Vichy, surtout avec un Vichy qui leur attribuait 450 millions par an pour les écoles libres. Monseigneur Chapoulier prendra note de cette remarque du maréchal qui dit qu'il faudra absolument un renversement des alliances, mais le maréchal va beaucoup plus loin et il va s'adresser à qui? Mais à Krug von Nida. Krug von Nida, c'est le consul général des Allemands à Vichy, et deux fois, en février puis en août, Krug von Nida, du reste, transmettra tout de suite à Berlin, avec quelques surprises, entend le maréchal qui lui dit qu'il faudrait que nous fassions une réconciliation entre les Américains et les Allemands pour lutter contre l'épouvantable péril bolchevique. Deux observations à vous présenter à ce sujet. J'apprends également dans ce livre de Raymond Tourneau, si intéressant, que Pilegola, qui a dirigé les affaires étrangères suisses, aurait été tout à fait d'accord. Et que Pie XII en particulier, Pie XII qui avait une horreur du bolchevisme, méditait les mêmes pensées. Il s'était dit, mais si on pouvait réconcilier les Allemands et les Américains, ce serait tout à fait excellent. Le maréchal n'arrive pas à trouver encore d'écho suffisant du côté des Allemands, mais il ne désespère pas. En tout cas, ne rien faire qui puisse gêner le travail des Allemands en France, puisque je vous le disais à la fin de mon dernier exposé, ce sont eux qui le soutiennent. Si bien que les malheureux officiers de l'armée qui a été dissoute, vous savez, la petite armée d'armistice, hein, donc l'État sait très bien qu'il faut les surveiller parce qu'ils ont préparé des dépôts d'armes secrets, reçoivent de sa part l'ordre de, sous peine de mort, vous entendez bien, sous peine de mort, il faut déclarer aux Allemands les dépôts d'armes que vous auriez ou que vous connaîtriez. C'est-à-dire votre devoir est de livrer aux Allemands ce qui pourrait servir à une reprise des offensives contre eux. Pourquoi fait-il ça? Ben, nous l'avons vu la semaine dernière, enfin la dernière fois. C'est un homme qui est uniquement préoccupé, qui est tendu vers l'application de sa politique intérieure. Alors on va le voir pendant un certain nombre de gestes que je vais vous rappeler. Lettre à Hitler du 5 décembre 42, visite de Laval à Hitler du 19 décembre 42, nouvelle visite de Laval à Hitler le 18 mai 43. Le maréchal chaque fois sera chargé, Laval sera chargé par le maréchal chaque fois de demander à Hitler des moyens de faire obéir les Français. Il voudrait qu'on lui restitue, il y a déjà ses 25 000 gardes mobiles, mais qu'on lui restitue des forces, je ne dis pas des forces militaires, mais enfin du moins des forces armées, qui lui permettraient de contrôler la situation. Et voici ce qu'il va dire le 29 avril 43, par écrit, au chancelier Hitler. « Ma politique de collaboration ne peut être couronnée de succès sans le concours d'un ordre intérieur assuré. Rien ne peut être construit dans le sens que je souhaite, l'ordre international, hein, sans la garantie d'un ordre intérieur. Il faut rendre à la France le sens de la discipline. » Ce qui me permet déjà de vous indiquer, le maréchal se rend bien compte que la discipline est mal obéie en France. « Je ne suis pas prêt à tolérer que quiconque en France m'empêche de poursuivre la rénovation intérieure du pays selon le programme que j'ai défini. » Vous savez, là, je crois que cette phrase est à double tranchant. Je veux dire qu'elle vise deux groupes de gens. Elle vise d'une part les résistants, enfin ceux qui n'admettent pas sa révolution nationale. Mais je crois qu'elle vise aussi le groupe des ultra-parisiens. Je n'en ai pas encore parlé, c'est de même intéressant. Autour de garçons comme Déa en particulier, et comme Doriot, il y avait à Paris des ultra-collabos. Des gens qui auraient voulu, et vous allez voir qu'ils vont le faire en 1944, qui auraient voulu une alliance militaire entre la France et le Reich. Ces gens s'appuient sur ce qu'ils estiment être social dans le national-socialisme. C'est assez vrai. Hitler avait fait pas mal pour la classe ouvrière, c'est tout à fait exact, comme Mussolini était le premier qui avait accordé des congés payés que la France mettra 10 ans, grâce à Blum seulement, mettra 10 ans à accepter sur son sol. Alors les gens de Paris disent d'une part, c'est pas une véritable collaboration qui se produit à Vichy, et d'autre part, du point de vue social, c'est de la régression. Notez bien qu'un homme comme Laval est très inquiet de ce qui se passe autour de Doriot et de Déa. Il a peur que les Allemands ne substituent à sa propre personne, qui est pourtant bien dévouée, ce groupe terrible des Parisiens. Mais là, il a tort de s'inquiéter, et le maréchal aurait bien tort aussi de se troubler, étant donné qu'Hitler tient tellement à la présence du maréchal et à son prestige pour faire obéir les Français, que des ordres seront donnés par Hitler à la presse parisienne de ne jamais attaquer la personne même du maréchal. Vous vous rappelez que le maréchal, après l'affaire de Dieppe, qui était du mois d'août 1942, avait demandé à Hitler la possibilité de garnir de soldats français un des créneaux du mur de l'Atlantique. Il disait ça du côté de l'Aquitaine, ce qui n'était pas très menaçant. Hitler avait écarté cette proposition. Et la seule collaboration militaire française qu'il autorisera, c'est du côté de la Tunisie. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Après, Al-Alamein remet les battus, reflue sur la Tunisie. Et le 9 novembre, le maréchal avait donné toutes instructions à son représentant à Tunis pour accepter le débarquement allemand à Bizerte et pour que les forces françaises luttent avec les forces allemandes contre les forces de Rommel. Alors c'est là que Laval va obtenir un tout petit succès. Il va obtenir la constitution de ce qu'il appellera la phalange africaine. Ça n'est presque rien, vous savez. C'était un colonel qui l'a dirigé. Il s'appelait colonel Cristofini, qui se battra avec son uniforme français en Tunisie contre les forces américaines qui viennent essayer de prendre Rommel à revers. Quant à ce qui se passe à l'intérieur de la France, le maréchal va tout de même obtenir quelque chose. Je dois vous dire qu'il l'avait déjà commencé à l'obtenir sous Darlan, à savoir une nouvelle police, pas encore la milice, vous en parlerez la prochaine fois, elle n'est pas encore là, mais une nouvelle police supplétive qu'il appelle le SOL. SOL, ça veut dire Service d'Ordre Légionnaire. Elle s'attache à cette fameuse Légion qui avait été créée dès 1940 et dont l'amiral Auffant nous dit qu'elle était composée d'une élite d'anciens officiers d'esprit droit et qu'elle était destinée, sortant de leur réserve, à lutter pour l'élimination des bacilles de l'esprit de 1789. Alors ils avaient un service d'ordre. Le service d'ordre est composé de gros bras, enfin de types qui demandaient à se battre. Et donc voici quelques citations. Leur serment était le suivant. Je jure de lutter contre la démocratie et contre la lèpre juive, et quant à leur chant de marche, commençait comme ça, SOL, faisons la France pure, bolchevique, franc-maçon, Israël, ignoble pourriture. Eh bien ça, c'est déjà la préparation de ce que nous allons voir apparaître, surtout au début de 1944, mais préparé dès 1943, qui s'appellera l'épouvantable milice. J'ajoute, et c'est des documents nouveaux qui viennent de nous parvenir, que le maréchal avait deux points à l'intérieur de la France sur lesquels il pouvait s'appuyer pour sa lutte contre ceux qu'il appelait les terroristes et qui n'étaient d'autres que les résistants. Il avait d'une part Jacques Chevalier. Jacques Chevalier, je vous en ai parlé, c'est ce premier ministre de l'éducation nationale qui avait inventé d'imposer aux instituteurs le respect des devoirs envers Dieu. Puis on y avait renoncé. Mais Jacques Chevalier est un homme qui est épouvanté par ce qui se passe dans cette France qui remue à partir du STO, service travail obligatoire. Un grand nombre de jeunes gens qui ont à choisir entre l'Allemagne ou la montagne vont choisir la montagne, c'est-à-dire vont passer au maquis. Et ce Jacques Chevalier est épouvanté de ce qui se passe, c'est-à-dire du nombre de ses résistants. Et M. Tournoux a révélé une lettre de Jacques Chevalier du 2 août 1943, un ami à lui que je ne connais pas, qui s'appelle Georges Hilaire, où il lui dit « Il faut organiser dans ma région, c'est la région de Grenoble, des contre-maquis. C'est de cette manière, et de cette manière seule, dit-il, qu'on peut sauver l'ordre en France. Comme il le fut en Espagne en juillet 1936, là où partout existait, sous l'action des généraux patriotes, une solide organisation secrète. » Par conséquent, vous voyez que le Jacques Chevalier est quelqu'un qui propose de faire à l'intérieur de la France des contre-maquis énergiques, anticommunistes, c'est-à-dire anti-résistants, et de préparer quelque chose qui, au cas où les Alliés gagneraient, permettrait à la France d'opérer, en France, d'opérer ce qui s'est passé en Espagne en juillet 36. 1. 2. Vous avez maintenant à l'intérieur des officiers patriotes dont je vous ai parlé, qui subsistaient dans cette armée dissoute, quelque chose qui va s'appeler bientôt l'armée secrète, c'est-à-dire un certain nombre de résistants très réels, de patriotes très réels, mais avant tout anticommunistes. Et je sais maintenant qu'un certain nombre de ces groupements de l'armée secrète se vanteront, vous m'entendez bien, se vanteront plus tard, d'avoir exterminé un certain nombre de terroristes ou d'anarchistes. On n'emploie pas le mot communiste, qui serait de même compromettant. On les appellera des terroristes et des anarchistes, mais il faut savoir que l'armée secrète est tellement peu de gauche, est tellement peu en faveur de ce que de Gaulle avait annoncé dès le 1er avril 1943, à savoir une immense révolution sociale à l'intérieur de la France, que dans cette armée secrète elle-même, vous avez des gens qui luttent contre le communisme. Pétain en est réduit à manœuvrer, étant donné que la situation devient de plus en plus mauvaise au cours de l'année 1918-1943, qu'on verra en particulier le débarquement en Sicile, puis le débarquement en Italie des troupes américaines et des troupes françaises. On verra Mussolini tomber, Mussolini se réfugier, vous le savez, après son incarcération rapide et sa délivrance par Sikorsky. Skorzeny. On le verra établir dans l'Italie du Nord un régime nazi et fasciste. Mais enfin, la situation tourne tellement mal que le maréchal est en train de se préoccuper d'un mouvement qui le rapprocherait des Alliés. Il va le faire en deux temps. En avril 1948, il médite de congédier son Laval. Il avait rétabli Laval dans ses prérogatives de dauphin, dauphin qui avait été d'abord en 1940 tel, puis qui avait perdu son delphinat lorsque Darlan lui avait succédé, mais qui a retrouvé son delphinat, c'est-à-dire qu'il doit être le successeur du maréchal s'il se trouvait empêché, à partir du 18 avril 1943. Eh bien, en avril 1943, le maréchal médite de se débarrasser de Laval et de faire un mouvement qui le rapprocherait des Alliés, car il sait que Roosevelt parle de Laval en l'appelant ce putois puant. Je ne sais pas s'il a eu l'imprudence d'en parler autour de lui. Toujours est-il que Abetz, l'ambassadeur allemand à Paris, va avertir Ribbentrop des dispositions secrètes que le maréchal semble vouloir prendre pour se débarrasser de Laval. Alors, le 28 avril 1943, Hitler explose. Et il écrit au maréchal. Il n'entre pas dans mes intentions de laisser mettre en question par un retour d'incidents analogues à ceux du 13 décembre 40, lorsque le maréchal avait expédié Laval hors de chez lui, la continuité de la politique établie entre la France et les puissances de l'Axe. Le malheureux Pétain recule tout de suite. Et dans sa réponse qui est du lendemain, qui est du 29 avril, il affecte la stupeur. Et il dit, ce n'est pas sans surprise, je dois l'avouer, que j'apprends vos alarmes. Et tiens, vous assurer immédiatement, monsieur le chancelier, qu'elles sont sans fondement. Ça, c'est d'avril. Nous arrivons maintenant à novembre, et la situation se précise de plus en plus. La menace d'une victoire alliée semble s'indiquer comme d'une certitude. Alors cette fois, le maréchal va aller bien au-delà, il va préparer une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle qui va très loin. Vous savez qu'il était antiparlementaire fondamentalement, qu'il avait fondé sa politique de Vichy dès le 10 juillet 1940 sur la disparition de toute représentation nationale, qu'il détestait l'Assemblée nationale, et tout à coup, en novembre 1943, il prépare une réforme constitutionnelle qui comporterait une réunion de cette Assemblée nationale elle-même. D'autre part, toujours d'une manière très secrète, mais les Allemands apprennent tout, puisqu'il, vous avez vu, il a dit à Bourbon-Parme, tout ce que je fais est connu des Allemands. Il a préparé également, à la place d'un seul personnage, à la place de Laval, qui aurait été son dauphin s'il avait disparu, un collège. Et ce collège devait comprendre l'amiral Auffant au premier rang. Et l'amiral Auffant a démissionné. Comme vous savez, il n'est plus secrétaire d'État à la marine. Il n'est rien, il est un simple citoyen. Mais il a la confiance du maréchal. Et dans ce collège exécutif, si vous voulez, qui représenterait le maréchal s'il était empêché, vous avez Auffant. Vous avez Boutillier, ça vous dit rien. Boutillier, c'était son ministre des Finances, et était quelqu'un qui avait été très dévoué au maréchal. Il y avait Caousse, figurez-vous, c'est un président. Il était procureur général à Rion, et puis il y avait finalement Végan. Cependant, le maréchal a toujours été très dur à l'égard de Végan, n'a pas protesté lorsqu'on l'a arrêté, mais il a l'intention maintenant de le reprendre auprès de lui. L'Allemagne le sait. Par quels moyens, je n'en sais rien. Cette fois, ce n'est pas Hitler qui va se prononcer, c'est Ribbentrop qui va envoyer le 29 novembre 1943 à Pétain une lettre dramatique. Donc, ce 29 novembre 1943, Ribbentrop, par ordre d'Hitler, écrit ce qui suit au maréchal. Comment vous osez envisager de rendre des pouvoirs à ce Parlement qui nous a déclaré la guerre en septembre 1939, après, écoutez bien, après les assurances solennelles de paix échangées entre l'Allemagne et la France le 6 décembre 1938. Si je me permets d'insister sur cette date, c'est que vous vous rappelez parfaitement que Bonnet, qui était ministre français des Affaires étrangères, deux mois après Munich, avait osé inviter Ribbentrop à Paris. Il avait fait une réception magnifique au Quai d'Orsay, excluant tout ce qui pouvait ressembler à une odeur juive, et il n'y avait pas de protocole. Je l'ai sais par M. Chauvel, qui a été mon chef à Berne, et qui était à ce moment-là déjà au Quai d'Orsay, qui m'avait dit, chose très curieuse, il n'y a pas eu de protocole rédigé sur les entretiens qui se sont déroulés secrètement entre M. de Ribbentrop et M. Bonnet. Alors nous apprenons par cette lettre de Ribbentrop du 29 novembre 1943 qu'il y avait eu assurance solennelle de paix échangée entre l'Allemagne et la France le 6 décembre 1938, les assurances solennelles de paix signifiant, de la part de Bonnet, vous avez déjà dévoré la Tchécoslovaquie, eh bien nous fermerons les yeux. Si vous voulez attaquer la Pologne, nous fermerons les yeux aussi. C'est-à-dire, main libre à l'Allemagne du côté de l'Est. Je poursuis la lettre de Ribbentrop. Le gouvernement du Reich doit repousser avec indignation, et comme une prétention inadmissible, le projet du chef de l'État français de remettre en fonction une pareille assemblée. Puis dans la lettre, des accusations vraiment très injustes à l'égard de Pétain qui n'aurait pas fait la politique de collaboration suffisante. Le gouvernement du Reich a observé avec une réserve toujours croissante les difficultés constantes que vous avez opposées à l'application d'une politique de collaboration véritable. Ça, c'est un peu raide, étant donné tout ce que le maréchal avait accepté, surtout de la part de Darlan. En réalité, de quoi s'agit-il là? Il s'agit surtout du comportement de Pétain à l'égard de ceux sur lesquels Ribbentrop veut s'appuyer à Paris. Ribbentrop voudrait que le maréchal accepte auprès de lui, dans son ministère, dans son cabinet ministériel, enfin dans son équipe gouvernementale, Déa, Henriot, Doriot. Ben, le maréchal ne veut, jusqu'à présent, ne veut pas. En conséquence, Ribbentrop exige, et je dis bien exige de Pétain, que désormais, tout projet de modification constitutionnelle soit d'abord soumis à l'approbation du Reich. Conclusion. Si, dans ces conditions, vous vous considérez comme empêché d'exercer vos fonctions, je tiens à vous faire savoir, au nom du Führer, que vous êtes entièrement libre d'en tirer les conclusions que vous jugerez opportunes. C'est une mise en demeure. Il dit au père Pétain, si vous voulez partir, le Führer n'y met pas d'obstacle. Pourquoi Hitler dit-il ça? Parce qu'il sait qu'il joue sur le velours. Parce qu'il sait que jamais Pétain ne cédera. Pétain n'aurait jamais dû rester après l'invasion de la France, encore moins après la tentative violente des Allemands, pour la deuxième fois l'armistice était violé lorsqu'ils ont tenté de s'emparer la flotte. Et il sait très bien, Hitler, il sait très bien que le maréchal, pour des raisons de politique intérieure, se considère comme inamovible. Et en effet, qu'est-ce qu'il va faire? Figurez-vous qu'il avait envahi Grosse-Tarzu, ça c'est encore une de ses révélations de Tournou. Grosse-Tarzu, vous vous rappelez Grosse-Tarzu, c'est un colonel d'aviation qui était avec lui déjà à Madrid et qui l'avait attaché à son cabinet militaire. En secret, le maréchal avait envoyé Grosse-Tarzu à Lisbonne pour prendre contact avec l'ambassade américaine à Lisbonne. Grosse-Tarzu revenu en disant « Oui, j'ai vu les Américains qui m'ont dit, de la part de Roosevelt, qu'ils vous conseillent, monsieur le maréchal, de vous considérer comme prisonnier et de vous retirer dans un de vos châteaux. » On avait mis à sa disposition, près de Vichy, deux châteaux. De vous considérer comme prisonnier, à l'instar du roi des Belges. Vous savez peut-être que Léopold III était resté en Belgique, s'interdisant toute action politique. Roosevelt disait à Pétain, faites la même chose, vous considérez-vous comme prisonnier. Maréchal Pétain n'accepte pas, il ne veut pas se considérer comme prisonnier, il veut rester à la tête de ce qu'il appelle cette souveraineté nationale, qui est seulement la possibilité de contrôler l'application de sa révolution nationale, et il va céder, mais totalement, au point qu'il va oser écrire, je dis bien oser écrire, hein, le 11 décembre 1943, s'adressant cette fois à Hitler lui-même, la décision prise par le ministre des Affaires étrangères du Reich d'envoyer en mission auprès de moi un de ses meilleurs collaborateurs et de ses hommes de confiance, facilitera ma tâche. Alors il y avait déjà Krug von Niga, hein, qui était le représentant, le consul général permanent du Reich à Vichy. Il y aura maintenant von Rentefink, qui était un hobereau prussien très grand, il avait près de 2 mètres de haut, il est toujours habillé en noir, personnage sinistre et glacial, qui va être là pour être l'ange gardien, le surveillant permanent, le contrôleur policier de Pétain. Et il va accepter. Dans l'entourage de Pétain, on va faire une comparaison entre Hudson Love, enfin Hudson, vous savez, de Sainte-Hélène, et Rentefink. Avec cette différence tout de même, que l'homme qui était à Sainte-Hélène y était par force, on l'avait conduit là, les Anglais l'avaient fait prisonnier, il s'est... Bon. Tandis que l'homme qui se trouve à Vichy est un prisonnier volontaire, c'est un homme qui s'est mis personnellement au service de l'ennemi. Sort des Français pendant ce temps-là. Les Juifs. Eh bien, savez-vous que le maréchal, ça, en 1942, avait prescrit à tous les Juifs français de s'inscrire dans une Union Générale des Israélites de France. Union Générale des Israélites de France, où ils devaient s'inscrire, ce qui permettait d'avoir un fichier. Si bien quand les Allemands vont entrer dans une zone non occupée, ils auront ce fichier tous les Juifs français. Le maréchal s'était appliqué, je crois, effectivement, à ne laisser déporter que les apatrides, auxquels il avait collaboré, étant donné qu'il avait rendu apatrides environ 6000 Juifs. Mais maintenant, il ne pourra plus rien faire, et ce sera des Juifs français qui vont être à leur tour déportés. Là, je dois dire que Laval a essayé de faire ce qu'il a pu. On ne le sait pas assez aujourd'hui, et je tiens à le dire. Non, j'ai une sympathie particulière pour Laval, mais enfin, c'est une chose historique. Laval avait toujours été opposé à la politique antisémite du maréchal. Lorsqu'il y a eu ces discussions, en particulier le soir, l'après-midi du 1er octobre 1940, sur le statut des Juifs, Laval avait été l'un de ceux qui avaient manifesté le plus d'opposition. Et ce refus de l'antisémitisme chez Laval n'était pas étranger à son éviction du 13 décembre. Ben, vous allez voir ce qu'il va tenter de faire et ce qu'il va obtenir. Premièrement, il va obtenir que les Allemands ne continuent pas à insister sur un point qui leur tenait semble-t-il à cœur, à savoir la dénaturalisation de tous les Juifs qui avaient obtenu la nationalité française à partir de janvier 33. Janvier 33, c'est le moment où Hitler prend le pouvoir. Les Allemands exigeaient que tous les Juifs qui avaient été admis comme Français après cette date fussent dénaturalisés. Bon, ça les Allemands reculent. Deuxièmement, c'est Laval, et ce n'est pas Pétain, qui va obtenir que pour les Juifs de la zone sud, la zone dite non occupée, le port de l'étoile jaune ne soit pas obligatoire alors qu'il l'était au nord. Et enfin, c'est Laval qui va s'arranger pour faire passer tous les Juifs qu'il pourra en zone d'occupation italienne. Car il faut savoir que Mussolini, lui, fait du moins, ne faisait pas d'antisémitisme. Et que, à partir de novembre 1942, la zone d'occupation italienne s'est étendue jusqu'à l'Isère et jusqu'au Rhône, et qu'il y avait là un certain nombre de Juifs qui pouvaient se réfugier parce qu'ils ne seraient plus persécutés. Voilà ce que Laval avait fait, en dehors même du maréchal, pour les Juifs. Maintenant, à l'égard des ouvriers. Eh bien, en Pologne, par exemple, les femmes aussi avaient été mobilisées pour le service du travail obligatoire. Laval va obtenir que les femmes en France ne soient pas mobilisées. Et je dois dire, ça, c'est pas de sa faute, c'est une veine qui lui arrive. C'est que Speer va modifier la politique de Hitler à l'égard des ouvriers. Speer va dire ce qui suit. Nos usines sont de plus en plus bombardées en Allemagne. Par conséquent, nous avons avantage à maintenir les ouvriers, surtout les ouvriers spécialisés français, dans les usines françaises qui sont beaucoup moins bombardées, de telle sorte que 700 000, vous m'entendez bien, 700 000 ouvriers qui devaient partir pour l'Allemagne ne vont pas partir. mais il en avait déjà suffisamment qui étaient passés en dissidence, puisque je voulais déjà un très grand nombre de jeunes gens mobilisables dans le service obligatoire étaient passés à la résistance. Et je voudrais appeler votre attention, presque pour finir, sur des remarques que l'amiral Auffan présente dans son livre pour l'année 1943. Il dit un des chagrins du maréchal, et il ne cache pas d'en être lui-même profondément affecté. Il le dit clairement à la page 290 de son histoire élémentaire de Vichy. C'est l'attitude que prennent un certain nombre de catholiques, et même de religieux, à l'égard de la résistance. En 1941 en particulier, on peut dire que tout l'épiscopat était ravi du gouvernement Pétain. Mais voilà qu'un certain nombre de catholiques éminents prennent maintenant une position tout à fait hostile. Et je crois qu'il n'est pas tellement inutile que je vous donne les noms que l'amiral Auffan énumère à la page 290 dans ses notes. Il y a deux jésuites d'abord, le révérend père Chaillet et le révérend père Delubac, avec leur épouvantable témoignage chrétien, c'est appelé à ce moment-là cahier du témoignage chrétien. Il y a trois dominicains que j'avais l'avantage de connaître personnellement. C'était le père Médieu, le père Chenu et le père Congar. Et puis il y avait ces laïcs désastreux, au premier rang desquels il y avait Mounier, le directeur d'Esprit. L'Esprit avait été interdit dès janvier 1941, mais Mounier n'est pas seul. Il y a Mandouze, qui existe toujours aujourd'hui. Il y a Domenac, il y a Beuve-Méry, il y a Maritain et il y a François Mauriac. Alors il est amusant de noter que l'amiral Auffan dira tout ça, ce sont des héritiers spirituels du Sillon, mais je ne peux pas me retenir de vous lire la phrase de la fin de ce paragraphe. Bien des positions qui devait être prise par certains théologiens au deuxième concile du Vatican et engendrer cet esprit post-conciliaire tant blâmé par le pape, était en réalité en germe dans la résistance. Pour finir, je vais vous apporter une citation presque incroyable que nous devons à Raymond Tourneau et qui vient de cet ami passionné du maréchal qui s'appelait le colonel de Gorres-Sarzu. Gorres-Sarzu, c'est un catholique intégriste. Et cependant, à la page 472 du Raymond Tourneau, vous lisez cette phrase d'un cynisme presque obscène que le maréchal a prononcé devant Gorostarzu. Vous savez, reine de Fic, il est bien pénible, c'est humiliant pour moi, mais je n'ai plus que les Allemands pour me protéger.